L'Église qui a perdu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ, pour passer à un autre Évangile. Non pas qu'il y ait un autre Évangile, mais il y a des gens qui vous troublent, et qui veulent renverser l'Évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Aujourd'hui, d'innombrables églises sont établies à travers le monde, et de nombreux sermons y sont proclamés chaque dimanche. Cependant, malheureusement, toutes les églises ne prêchent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les gens se rassemblent dans la chapelle, louent Dieu, lisent la Bible et offrent des prières, mais il est très courant que le cœur même, l'évangile de l'eau et de l'esprit, la parole concernant Jésus étant baptisé par Jean, mourant sur la croix et ressuscitant, ne soit pas proclamé. L'apôtre Paul a dit à l'église de Galatie, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Puisque même les saints de l'Église primitive ont été facilement séduits par un évangile différent, il n'est donc pas étrange qu'en cet âge présent, les Églises aient perdu l'Évangile et soient liées par les traditions et les doctrines. Aujourd'hui, nous devons regarder en arrière sur l'état de l'Église qui a perdu l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, et examiner ensemble pourquoi une réforme de la foi est de nouveau nécessaire. Paul a dit qu'il n'y a pas d'autre Évangile en dehors de l'Évangile auquel il croyait. Dans Épître aux Galates, chapitre 1, Paul a déclaré résolument, « Il n'y a pas d'autre évangile. » Elle est l'évangile différent dans lequel les croyants de Galatie étaient tombés était un enseignement selon lequel le salut était incomplet avec seulement le baptême de Jésus, la croix et la résurrection, et que les œuvres de la loi et la circoncision devaient être ajoutées pour que le salut soit complété. Cependant, Paul a fermement rejeté un tel enseignement. C'est parce que l'évangile de Jésus-Christ est déjà parfait. Historiquement, l'Église de Dieu a aussi fait l'expérience de la perte du véritable évangile de l'eau et de l'esprit à travers le demi-évangile présenté dans le Credo de Nicée. Les saints de l'Église primitive se sont clairement attachés à elle et évangile de l'eau et de l'esprit dans leur cœur. C'est-à-dire, ils croyaient que Jésus a reçu le transfert des péchés du monde en étant baptisé par Jean, a pris le jugement pour le péché en étant crucifié, et en ressuscitant d'entre les morts, il a sauvé de leurs péchés ceux qui croient en lui. Cependant, à mesure que le temps passait, certains des pères de l'Église ont commencé à interpréter le salut d'un point de vue philosophique et éthique, et la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit s'est progressivement obscurcie. Particulièrement après le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit de l'Église primitive a été enfermé dans le dogme du Credo de Nicée, alors que l'Évangile passait sous le pouvoir politique de l'empereur. Parce que la doctrine du Credo de Nicée était un credo qui supprimait le ministère de Jésus consistant à ôter les péchés du monde par le baptême qu'il a reçu de Jean, pendant 1700 ans, depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu un credo qui a obscurci la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Jésus. Depuis cette époque jusqu'à nos jours, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit est devenue un credo qui a disparu de la tête et des pensées des gens. En conséquence, l'Église du 21e siècle est devenue une assemblée de croyants qui ne croient qu'en Jésus crucifié et en sa résurrection. Tout au long de l'histoire, la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été ensevelie sous la doctrine du Credo de Nicée. Par conséquent, l'Église catholique s'est solidifiée en un système religieux dépendant des sacrements et de la tradition. Dès lors, la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été traitée comme un évangile qui, à l'origine, n'avait jamais existé sur cette terre. Bien-aimés saints, quel est l'état de l'Église du 21e siècle aujourd'hui? De nombreuses églises ne sont-elles pas devenues des groupes qui croient encore laver leurs propres péchés par la prière de repentance ou la confession? Cependant, la parole de la Bible dit que Jésus a sauvé les pécheurs de leurs péchés une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean, faisant ainsi passer sur lui les péchés du monde, et en étant crucifié et en ressuscitant d'entre les morts. Aujourd'hui, nous devons examiner l'évangile auquel nous croyons nous-mêmes. Ce en quoi vous croyez et sur quoi vous vous appuyez est-il l'évangile de l'eau et de l'esprit? Ou bien sont-ce votre repentance et votre zèle? Nous devons avoir la foi qui croit en la parole du baptême que Jésus a reçu de Jean et de la croix. Sachez que les églises d'aujourd'hui ont perdu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit depuis 1700 ans. Cela signifie que 1700 ans se sont écoulés depuis que la foi que possédaient les chrétiens de l'église primitive a été perdue. Le moment où cette foi a été perdue remonte au temps où le credo de Nicée a été établi dans ce monde. À cette époque, l'empereur romain Constantin a créé le credo de Nicée et a fait perdre aux chrétiens de l'église primitive la parole de l'évangile en laquelle ils croyaient, c'est-à-dire la foi que notre Sauveur Jésus est le Sauveur qui a éliminé tous les péchés de l'humanité en recevant le baptême de Jean pour que les péchés du monde soient transférés sur lui, et en étant crucifié et en ressuscitant d'entre les morts. Une longue période de 1700 ans s'est écoulée depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Puisque nous sommes maintenant en l'an 2025, exactement 1700 ans se sont écoulés depuis la création du Credo de Nicée. Avant que le Credo de Nicée ne soit créé dans le monde, l'évangile auquel les apôtres croyaient était l'évangile de l'eau et de l'esprit. Actes, chapitre 2, verset 38, 1er épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, 1er épître de Jean, chapitre 5, verset 5 à 8. Cependant, après un certain temps, lorsque l'empereur romain Constantin a proclamé le credo de Nicée, l'évangile de l'eau et de l'esprit auquel les apôtres de l'église primitive s'étaient attachés a disparu de cette terre pendant 1700 ans. Dès lors, la foi de croire en Jésus qui a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde, les a lavés, et qui, par sa résurrection de la mort sur la croix, est devenu le Sauveur, a disparu. Ne voyez-vous pas de vos propres yeux ceux qui meurent sans recevoir la rémission des péchés? À notre époque, les chrétiens meurent parce qu'ils ne connaissent pas l'évangile de l'eau et de l'esprit consigné dans la parole des Écritures. Les chrétiens d'aujourd'hui sont comme des malades du cancer en phase terminale qui meurent spirituellement. Pour qu'ils reçoivent la rémission des péchés devant Dieu, ils doivent vraiment croire la parole d'évangile de la vérité qui les fait naître de nouveau d'eau et d'esprit. L'évangile de l'eau et de l'esprit est un message d'évangile béni qui est plus que suffisant pour vous sauver une fois pour toutes des péchés du monde. En cette ère, ceux qui s'attachent à l'évangile de l'eau et de l'esprit sont des gens qui, bien qu'ils puissent être faibles au début, peuvent plus tard devenir des ancêtres de la foi avec une abondance extrêmement grande. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de gens qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit, l'œuvre de la vie se manifeste dans leur cœur. La parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit en laquelle l'apôtre Paul, Pierre et l'apôtre Jean ont cru et qu'ils ont prêché est la parole de l'évangile en laquelle nous devons croire maintenant. Par conséquent, nous devons jeter la foi de croire au credo de Nicée, et retourner à la foi de croire en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la Bible témoigne. C'est précisément la réforme de la foi que nous devons accomplir. Quand les premiers chrétiens ont-ils commencé à perdre l'évangile de l'eau et de l'esprit? L'empereur Constantin, règne 306 à 337, fut une figure qui marqua un grand tournant dans l'histoire du christianisme, mais son influence fut double. Il promulgua l'édit de Milan en 313, légalisant le christianisme, et en conséquence, les croyants ne furent plus persécutés au sein de l'Empire romain et purent pratiquer leur foi librement. Cependant, en même temps, cette liberté devint l'occasion pour l'Église de perdre la foi pure de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit qu'elle avait préservée pendant longtemps. La foi de croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, qui avait été renforcée par le martyre et la souffrance de l'Église primitive, disparut dans les recoins de l'histoire à cause des doctrines catholiques institutionnalisées. En particulier, le Concile de Nicée, 325 après Jésus-Christ, dirigé par Constantin, réalisa l'unité doctrinale en formalisant la doctrine de la Trinité, mais en même temps, ce fut aussi l'événement par lequel l'Église passa sous le pouvoir de l'empereur. L'Église n'était plus une simple communauté de foi mais se transformait en une religion catholique sous l'influence du pouvoir de l'État. À cette époque, le credo de Nicée avait pour but de résoudre la controverse arienne, mais il devint l'occasion où le message essentiel de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, à savoir que par le baptême que Jésus a reçu de Jean, les péchés du monde ont été transférés à Jésus, et qu'en croyant cela, l'œuvre du Saint-Esprit qui purifie le cœur des hommes s'accomplissait, disparut. Finalement, le credo de Nicée devint l'occasion qui supprima fondamentalement le ministère du baptême de Jésus, auquel l'Église primitive avait cru et qu'elle avait prêché, et en conséquence, l'évangile de l'eau et de l'esprit disparut dans les recoins de l'histoire. L'empereur romain voulait une religion qui appartint à la nation romaine. Ce qu'il désirait n'était pas la parole de l'évangile de la vérité du salut, mais plutôt une religion unique à travers laquelle les citoyens de Rome pourraient être unis, ne pas se combattre les uns les autres, et vivre ensemble comme une seule communauté. Par conséquent, il n'avait pas besoin de l'évangile selon lequel Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui et a lavé les péchés du monde, il avait seulement besoin d'une religion qui mettait simplement en avant la croix. En conséquence, le catholicisme est né. De cette manière, l'empereur romain en vint à accepter un système religieux qui donnait la priorité aux compromis politiques et aux besoins du pouvoir plutôt qu'à l'essence de la nouvelle naissance. Avant tout, le plus grand changement fut que la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, en laquelle les chrétiens de l'Église primitive avaient cru, disparut. Jusque-là, les premiers chrétiens avaient risqué leur vie pour préserver l'évangile de l'eau et de l'esprit et s'étaient fermement attachés à leur foi, mais lorsque le christianisme fut institutionnalisé en tant que religion catholique de l'Empire romain, cette foi fut ensevelie sous le pouvoir temporel et un sentiment de privilège. En résumé, à travers l'ère de Constantin, le christianisme a perdu la liberté de croire en la pure parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et, à la place, est devenu lié à une religion catholique institutionnelle alliée au pouvoir politique. Ceci a entraîné un résultat honteux qui n'aurait jamais dû se produire dans l'histoire du christianisme. Quand l'Église primitive a-t-elle perdu la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit? La question « Quand l'Église primitive a-t-elle perdu l'évangile de l'eau et de l'esprit ?» va au-delà d'une simple interrogation sur la chronologie, elle devient un tournant majeur qui remet en question la manière dont l'évangile de l'eau et de l'esprit a été corrompu. À l'époque apostolique, c'est-à-dire au 1er siècle, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit fut préservée dans sa pureté. Les apôtres et les premiers chrétiens croyaient que Jésus avait été baptisé par Jean, que les péchés du monde lui furent transférés, qu'il fut crucifié et versa son sang, et qu'en ressuscitant d'entre les morts, il devint le Sauveur. Lorsque nous observons les actes des apôtres, les épîtres de Paul et les épîtres de Pierre, nous pouvons voir avec quelle clarté cet évangile de l'eau et de l'esprit a été proclamé. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, première épître de Jean, chapitre 5, verset 5 à 7, acte, chapitre 2, verset 38 à 39. Cependant, avec la fin de l'époque apostolique et l'arrivée de l'ère patristique, 2e à 3e siècle, la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit a commencé à être progressivement corrompue. Certains pères de l'Église ont tenté d'interpréter l'évangile de l'eau et de l'esprit en termes philosophiques et éthiques. Dans ce processus, le véritable évangile, à savoir que les péchés du monde furent transférés lorsque Jésus fut baptisé par Jean, ne fut plus transmis comme la parole puissante qui gouverne la foi, mais fut plutôt transformé en une simple doctrine religieuse consistant à croire uniquement en la croix. En conséquence, il a finalement dégénéré pour devenir une des nombreuses religions du monde. En 325 après Jésus-Christ, le Concile de Nicée, convoqué sous l'empereur Constantin, est devenu le tournant décisif de cette tendance. À partir de ce moment-là, la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, que le christianisme croyait et suivait, a été supprimée et doctrinarisée pour les desseins politiques de l'empereur. Dans ce processus, le cœur de la parole de l'Évangile, que Jésus a reçu le baptême de Jean et que, par cet acte, les péchés du monde lui ont été transférés, a été officiellement omis du credo de Nicée. Finalement, le christianisme a été transformé en une religion qui mettait l'accent uniquement sur la croix, et au sein du système doctrinal catholique, seul un simple rituel est resté. Par la suite, à la fin du IVe siècle, lorsque l'empereur Théodose a proclamé l'Église catholique religion d'État de l'Empire romain, la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit en laquelle croyaient les chrétiens de l'Église primitive a disparu, et l'Église catholique a pris sa place, ne laissant que des rituels. La parole du baptême, que Jésus a été baptisé par Jean et a reçu le transfert des péchés du monde sur lui, a été changée en le rituel catholique du sacrement du baptême, et des rites institutionnels tels que la confession et les sacrements ont pris la place du ministère du baptême de Jésus. À partir de ce moment-là, l'Église catholique a été établie non pas sur l'évangile de l'eau et de l'esprit mais sur un système rituel centré sur les sept sacrements. Finalement, le processus par lequel l'Église primitive a perdu la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été clairement marqué au moment où le Credo de Nicée a été élaboré. Le tournant décisif auquel la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, en laquelle les premiers chrétiens avaient cru, a commencé à être corrompu en une forme catholique, a été le Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ, lorsque le Credo de Nicée a été créé. Puis, à la fin du IVe siècle, alors que la religion catholique était établie comme religion d'État de l'Empire romain, l'essence de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a progressivement disparu dans l'histoire, et l'Église catholique a pris sa place, se poursuivant jusqu'à l'année actuelle 2025. Au IIe à IIIe siècle, alors que commençait l'âge patristique, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a progressivement commencé à s'estomper. Alors que certains pères de l'Église tentaient d'expliquer l'Évangile en y intégrant des concepts de la philosophie grecque, en particulier le platonisme et la philosophie stoïcienne, la vérité du transfert des péchés par le baptême de Jésus a été progressivement reléguée à l'arrière-plan. Tandis que la signification de la croix continuait d'être soulignée, la vérité du transfert des péchés par le baptême semblait être chassée et perdue sous l'influence des religions du monde. En 325 après Jésus-Christ, le Concile de Nicée, convoqué sous la direction de l'empereur Constantin, est devenu un tournant dans la corruption de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. À partir de ce moment, la doctrine chrétienne, sacrifiée au compromis politique et au pouvoir de l'État, a officiellement exclu l'événement du baptême de Jésus du Credo de Nicée. En conséquence, le lien complet de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, baptême, croix, résurrection, a été rompu, et un système doctrinal a été achevé où seule la croix et la résurrection subsistaient. Après 380 après Jésus-Christ, avec l'établissement national du christianisme comme religion d'État sous l'empereur Théodose, le christianisme n'était plus l'Évangile basé sur la foi personnelle mais a été transformé en un système de la religion catholique d'État. Le baptême a été institutionnalisé non pas comme la vérité du transfert des péchés, mais comme le rite sacramentel du baptême pour entrer dans l'Église, et le salut a été changé en quelque chose d'accompli au sein des sacrements et de l'autorité de l'Église. Par la suite, à travers les conciles de Constantinople, 381, d'Éphèse, 431, et de Chalcédoine, 451, au IVe à Ve siècle, cette tendance s'est encore plus enracinée. Le salut a été solidifié comme un système entièrement déterminé par les sept sacrements et les institutions de l'Église catholique, et l'essence de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, le baptême de Jésus et le transfert des péchés, semblaient avoir disparu dans l'histoire. En conclusion, l'Évangile parfait de l'eau et de l'Esprit, accompli par le baptême de Jésus, la croix et la résurrection, semblait avoir disparu à jamais de la scène de l'histoire par le Concile de Nicée au IVe siècle et l'établissement du catholicisme comme religion d'État de l'Empire romain. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit, auquel les premiers chrétiens croyaient, est-il proclamé au sein du christianisme du XXe et XXIe siècle? Dans le cas de l'Église catholique, au sein de sa doctrine officielle, le salut par la croix et la résurrection de Jésus est fortement souligné. Cependant, le fait attesté par les Écritures, que Jésus a été baptisé par Jean et que par cela les péchés du monde ont été transférés sur lui, est à peine mentionné au sein de leur doctrine. Le sacrement catholique du baptême s'est développé en un sacrement pour la rémission du péché originel, mais la vérité que Jésus a été baptisé par Jean et a reçu les péchés du monde transférés sur lui n'est plus évoquée. Par conséquent, la parole originelle et véritable de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a été cachée sous les sept sacrements catholiques et est restée en sommeil même au sein du christianisme pendant 1700 ans. Après la Réforme, XVIe siècle, des réformateurs tels que Luther et Calvin ont commencé à ne souligner que la mort sur la croix et la résurrection, telles que proclamées par le catholicisme. La parole de vérité de l'Évangile, que le baptême de Jésus par Jean a transféré les péchés du monde, a également été laissé de côté du système doctrinal du protestantisme. La plupart des traditions protestantes n'ont pas réussi à comprendre le baptême que Jésus a reçu de Jean comme la vérité de la parole qui a transféré les péchés du monde sur lui et qui a fait naître de nouveau les gens par l'eau et l'esprit. Ils ont fini par devenir ceux qui ignoraient le ministère de Jésus recevant le baptême de Jean pour prendre sur lui les péchés du monde, tout en ne valorisant que le sang de la croix. Les théologiens chrétiens ont commencé à présenter l'œuvre juste de Jésus, qui a été baptisé par Jean et a lavé les péchés du monde, uniquement comme le point de départ de son ministère public. En conséquence, bien que la croix et la résurrection aient été certainement soulignées, l'œuvre du baptême de Jésus par Jean, par laquelle il a reçu et lavé les péchés du monde, a été ignorée et négligée, tandis qu'ils n'étaient obsédés que par la satisfaction de leurs propres désirs. Même lorsque nous regardons le christianisme dans le monde entier aujourd'hui, la situation n'est pas très différente. Tant dans le catholicisme que dans le protestantisme, l'évangile officiellement proclamé n'est rien de plus que le message que Jésus est mort sur la croix et est ressuscité. Cependant, une autre vérité importante attestée par les Écritures est que Jésus a été baptisé par Jean, recevant ainsi les péchés du monde transférés sur lui, a été crucifié, est mort, et est ressuscité pour devenir le Sauveur. En d'autres termes, les églises chrétiennes d'aujourd'hui proclament la moitié de l'Évangile, la croix et la résurrection, mais l'autre moitié, que Jésus a été baptisé par Jean et a porté les péchés du monde dans son corps pour le salut, est ignorée et mise de côté, faisant d'eux des religieux mondains. En conclusion, la plupart des églises catholiques et protestantes existant sur terre aujourd'hui commettent le péché de ne pas tenir compte du ministère de Jésus en ne croyant pas et en ne prêchant pas la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, celle du transfert des péchés par le baptême de Jésus. Au XXe et XIe siècle, c'est devenu une époque où seule la croix et la résurrection de Jésus sont soulignées. En conséquence, l'Évangile complet de l'eau et de l'Esprit dont parlent les Écritures peut à peine être trouvé au sein du système ecclésiastique officiel. Par conséquent, les gens qui croient au christianisme aujourd'hui finissent par vivre comme des insensés qui croient en Jésus comme leur sauveur, mais qui n'ont pas eu leurs péchés lavés. Même maintenant, nous devons retrouver la foi de croire en Jésus-Christ, qui est devenu notre sauveur par son baptême, la croix et la résurrection. Même maintenant, nous devons retrouver la foi de croire en nos véritables évangiles, que Jésus a été baptisé par Jean, a pris sur lui les péchés du monde, et a ainsi lavé nos péchés. N'est-ce pas ainsi? Nous devons être ceux qui sont sauvés en croyant au Seigneur, qui a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde transférés sur lui, a été crucifié, est mort, et est ressuscité, comme notre Sauveur. À présent, sur cette terre, il reste encore beaucoup de gens qui ont cette foi. Même maintenant, de nombreuses personnes dans le monde entier croient en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit donné par le Seigneur et la proclament. Jésus a été baptisé par Jean, et les péchés du monde ont été transférés sur son corps, il a porté les péchés du monde, a été crucifié, a versé son sang, et est mort, et en ressuscitant d'entre les morts, il vit maintenant comme notre Sauveur. Cette étonnante parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit a seulement été cachée par les doctrines et les systèmes des églises du monde, mais dans la parole des Écritures, le ministère du baptême de Jésus est encore préservé exactement tel qu'il est. Par conséquent, l'Évangile de l'eau et de l'Esprit n'a en aucun cas disparu, mais est devenu la parole de salut de Jésus-Christ, qui même maintenant nous attend dans la parole des Écritures. Par conséquent, la réforme de la foi n'est pas l'invention d'une nouvelle doctrine. C'est simplement retrouver la parole de l'Évangile primitif de l'eau et de l'Esprit, témoignée par les Écritures, et y croire dans nos cœurs. Tout comme le réformateur Luther s'est écrié « l'Écriture seule », de même la réforme de notre foi aujourd'hui doit être fondée sur les Écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, et elle doit être à nouveau témoignée et proclamée par la foi sur le fondement du baptême de Jésus reçu de Jean, de la croix et de la résurrection. La véritable réforme de la foi doit être rebâtie non sur la pensée humaine ou la tradition religieuse, mais sur la foi en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit consignée dans les Écritures. Et une telle réforme de la foi est absolument nécessaire aujourd'hui. Le salut du péché ne vient pas des institutions religieuses ou des sacrements, mais seulement de la foi de croire en la parole de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit consignée par Dieu. Si les gens aujourd'hui reçoivent dans leur cœur Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean, recevant ainsi les péchés du monde transférés sur lui, a été crucifié, est mort, et est ressuscité d'entre les morts, comme leur Sauveur, alors à travers eux la véritable réforme de la foi peut commencer à nouveau. Dieu a, à chaque époque, suscité un reste pour commencer la proclamation de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Épître aux Romains, chapitre 11, verset 5. Même aujourd'hui, Dieu commence la réforme de la foi de la même manière, par sa parole. En conclusion, la réforme de la foi est possible même maintenant. Quand nous croyons en Jésus, qui a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde transférés sur lui, est mort sur la croix, et est ressuscité d'entre les morts, comme notre Sauveur, en dehors des traditions de l'Église ou des formes religieuses, alors nous recevrons le salut. Même en ce 21e siècle actuel, une véritable réforme de la foi peut surgir. Ceci est le défi et l'appel de la foi que Dieu a donné en cette dernière époque. Alors, qui doit être le tout premier à participer à la réforme de la foi? Ce doivent être les présidents de dénomination ou les pasteurs de l'ordre catholique ou des églises chrétiennes d'aujourd'hui qui doivent d'abord se repentir et revenir. Ils doivent retourner à la foi de croire en Jésus-Christ, qui a été baptisé par Jean, a reçu les péchés du monde transférés sur lui, a été crucifié, est mort, et est ressuscité, et qui est maintenant devenu notre Sauveur. Et ils doivent faire tout leur possible pour travailler ensemble. La Bible dit toujours que les chefs religieux du christianisme doivent être les premiers à se repentir et à revenir. Dans l'Ancien Testament, lorsque les prophètes et les prêtres ne se tenaient pas droit devant Dieu, tout le peuple était égaré. Dans le Nouveau Testament, lorsque les pharisiens et les scribes étaient liés à la loi et bloquaient la parole de Dieu que Jésus prêchait, Jésus les réprimanda en disant « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Évangile selon Matthieu, chapitre 23, verset 13. C'est la même chose aujourd'hui. Les leaders dénominationnels, les présidents d'assemblées générales et les pasteurs doivent devenir ceux qui croient en la parole de l'évangile du baptême de Jésus par Jean et du transfert des péchés, et qui sont nés de nouveau. L'évangile que nous devons crier aujourd'hui est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cet évangile est la vérité factuelle que Jésus a été baptisé par Jean et a reçu les péchés du monde transférés sur lui, qu'il a porté ses péchés et a été crucifié, a versé son sang, et est mort, et qu'en ressuscitant des morts, il est maintenant devenu notre Sauveur. Les pasteurs doivent être les tout premiers à réaliser cette parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et avec foi, la proclamer hardiment depuis leur chair. La Bible dit, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » 1 Épître de Pierre, chapitre 4, verset 17. Le Seigneur exige la repentance d'abord au sein de l'Église. Par conséquent, les dénominations et les pasteurs doivent se détourner de leurs traditions, institutions et doctrines humaines, et retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit attesté dans les Écritures. Lorsque cela se produira, une véritable réforme et un véritable réveil surgiront au sein de l'Église, et d'innombrables âmes obtiendront une vie nouvelle. En conclusion, même maintenant les pasteurs doivent d'abord se repentir et retourner au Seigneur. Et depuis leur chair, ils ne doivent pas hésiter à proclamer le baptême, la croix et la résurrection de Jésus comme un seul évangile. C'est la véritable réforme de la foi qui sauve l'Église et sauve le monde. Bien-aimés, si l'Église doit être ravivée aujourd'hui, avant tout les pasteurs doivent d'abord se repentir. Tous les pasteurs doivent être les tout premiers à s'agenouiller et à revenir. Lorsque Jésus a été baptisé par Jean, tous nos péchés ont été transférés sur lui, et portant ses péchés, Jésus a été crucifié, a versé son sang, et est mort. Et en ressuscitant après 3 jours, il est maintenant devenu notre Sauveur. Par conséquent, nous ne devons plus hésiter mais proclamer hardiment cet évangile de l'eau et de l'esprit depuis la chair. Témoigner du baptême, de la croix et de la résurrection de Jésus comme un seul évangile est le seul moyen de sauver l'Église, de sauver les âmes des saints et de sauver cette époque. Bien-aimés, nous devons d'abord nous repentir et revenir. Et de nouveau, nous devons nous attacher fermement à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit et la crier, Jésus a été baptisé par Jean et a reçu les péchés du monde transférés sur lui, et il est mort sur la croix et est ressuscité, devenant notre Sauveur. Cette proclamation de l'Évangile doit couler aujourd'hui de nos lèvres, de la chair, et dans le monde entier. C'est la véritable réforme de la foi. Le Seigneur, même maintenant, sera glorifié à travers ceux qui croient en cet Évangile de l'eau et de l'Esprit et le proclament. Amen. Ceux qui accomplissent la réforme de la foi reçoivent-ils la bénédiction du salut de Dieu? En cette époque, ceux qui accomplissent dans leur cœur la réforme de la foi, c'est-à-dire, ceux qui s'attachent fermement à l'évangile complet du baptême de Jésus, de la croix et de la résurrection, recevront sûrement la bénédiction du salut que Dieu a promise. Qu'est-ce que la véritable réforme de la foi? La réforme de la foi, c'est de rejeter le demi-évangile qui a été caché sous les traditions humaines, les doctrines et les institutions, et de revenir à l'évangile de l'eau et de l'esprit témoigné dans les Écritures. La véritable réforme de la foi, c'est de croire dans son cœur que le Seigneur a pris sur lui les péchés en étant baptisé, est mort sur la croix, et est ressuscité. L'évangile de bénédiction promis dans l'Ancien et le Nouveau Testament est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les Écritures donnent une promesse claire à ceux qui croient en cet évangile. Jean, chapitre 1, verset 29 dit « Voici l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde ». Ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent la rémission des péchés. Épître aux Romains, chapitre 8, verset 1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Pour ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit, il n'y a plus de jugement. Jean, chapitre 3, verset 16 témoigne « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ». Ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'esprit reçoivent la vie éternelle. Par conséquent, ceux qui accomplissent la réforme de la foi jouissent de la grâce du salut, à savoir, la rémission des péchés, la vie éternelle, et l'habitation du Saint-Esprit. Quelle est la tâche que nous devons entreprendre aujourd'hui? Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent en s'attachant uniquement à des formes religieuses. Mais ceux qui suscitent la réforme de la foi dans leur cœur, à savoir, ceux qui croient au fait que Jésus a été baptisé et a pris sur lui mes péchés, et en mourant sur la croix et en ressuscitant, m'a sauvé, reçoivent sûrement la bénédiction de devenir enfants de Dieu. Jean, chapitre 1, verset 12. Même à notre époque actuelle, ceux qui accomplissent la réforme de la foi dans leur cœur reçoivent la bénédiction du salut que Dieu a promise. Même aujourd'hui, Dieu donne la rémission des péchés, la vie éternelle, et la grâce du Saint-Esprit à ceux qui croient en cet évangile de l'eau et de l'Esprit. Bien-aimés saints, ce dont nous avons besoin aujourd'hui, ce ne sont pas de nouvelles institutions ou traditions. Ce à quoi nous devons nous attacher fermement, c'est uniquement la parole de l'évangile de l'eau et de l'Esprit, témoignée dans les Écritures. Jésus a été baptisé par Jean et a reçu tous nos péchés transférés sur lui, il a porté ses péchés, a été crucifié, a versé son sang, et est mort. Et après 3 jours, il est ressuscité et est maintenant devenu notre Sauveur. Par conséquent, ceux qui suscitent la réforme de la foi dans leur cœur en cette époque, ceux qui s'attachent fermement à cet évangile par la foi, reçoivent la bénédiction du salut que Dieu a promise. Il leur est donné la rémission des péchés, il n'y a aucune condamnation, et l'autorité de devenir enfant de Dieu leur est accordée. De plus, la vie éternelle et l'habitation du Saint-Esprit leur sont promises. Bien-aimés, l'endroit où nous devons nous tenir est uniquement sur cet évangile de l'eau et de l'Esprit. Croire en cet évangile, le proclamer, et s'y attacher fermement jusqu'à la fin, c'est la réforme de la foi qui nous est donnée aujourd'hui. Par conséquent, je vous bénis au nom du Seigneur, pour que nous tous puissions nous tenir fermement sur cet évangile, jouir dans nos cœurs de la bénédiction du salut que Dieu donne, et devenir le peuple de Dieu qui témoigne audacieusement de cet évangile au monde. Amen. La véritable réforme de la foi aujourd'hui n'est-elle pas d'abandonner les doctrines traditionnelles et de retourner à l'évangile de l'eau et de l'esprit? L'un des problèmes les plus sérieux dans le christianisme d'aujourd'hui est la doctrine de la repentance faussement établie. De nombreuses dénominations protestantes enseignent encore la prière de repentance comme si c'était une condition pour le salut. La pensée que l'on doit se repentir chaque fois qu'un péché est commis pour être pardonné appartient à ceux qui ne croient pas pleinement dans le salut parfait que Jésus a accompli une fois pour toutes par son baptême et la croix. Cependant, la Bible ne dit pas que le pardon des péchés s'obtient par des actes de repentance répétés. La Bible déclare clairement que la rémission des péchés s'obtient en croyant dans le baptême de Jésus, la croix et la résurrection. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10, Jean, chapitre 19, verset 30. Le sacrement catholique de la confession révèle le même problème. Le catholicisme enseigne que le prêtre ôte les péchés, Mais la Bible dit que l'autorité d'ôter les péchés n'appartient pas aux institutions humaines ou aux prêtres, mais au baptême de Jésus et au sang de la croix. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21. La confession, en fin de compte, amène les gens à dépendre de l'homme et les empêche de s'attacher fermement à la rédemption du Christ. De cette manière, d'innombrables doctrines établies au sein de la tradition chrétienne souvent obscurcissent et déforment l'évangile des Écritures. C'est pourquoi la véritable réforme de la foi ne consiste pas à s'attacher à des doctrines faites par l'homme, mais à retourner à l'évangile attesté dans la Bible. Cet évangile est précisément l'événement de Jésus étant baptisé pour porter nos péchés, mourant sur la croix et ressuscitant. En conclusion, nous devons maintenant nous écarter des doctrines de repentance du christianisme, de la confession catholique et de toutes les doctrines faites par l'homme et accomplir la réforme de la foi. La réforme de la foi ne réside pas dans la préservation du cadre des doctrines, mais seulement dans le renouvellement de la foi à travers l'évangile complet du baptême de Jésus, de la croix et de la résurrection. Trois virages pour la réforme de la foi. Premièrement, nous devons nous détourner de la doctrine de la repentance et nous tourner vers la foi de croire en la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui, de nombreuses églises s'attachent à la doctrine selon laquelle l'on doit prier la prière de repentance chaque fois que l'on pèche afin d'être pardonné. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible témoigne que Jésus a porté nos péchés par son baptême et a ôté tous les péchés une fois pour toutes en versant son sang sur la croix. Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 10. Par conséquent, nous devons nous détourner des actes de repentance répétés et nous attacher fermement par la foi à l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a déjà été accompli. Deuxièmement, nous devons nous détourner de la doctrine des sacrements et nous tourner vers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le catholicisme a enseigné que le pardon des péchés et la grâce sont reçus par la confession et la messe. Mais la Bible dit clairement que la rédemption a été accomplie non par des institutions humaines mais par le baptême de Jésus et le sang de la croix. Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12. La véritable réforme de la foi consiste à se détourner d'une foi qui dépend des rituels sacramentels et à se tourner vers une foi qui croit en l'œuvre de salut directement accomplie par Jésus. Troisièmement, nous devons nous détourner des doctrines humaines et nous tourner vers l'évangile de l'eau et de l'esprit. Les doctrines et les credos établis par les dénominations, les assemblées et les traditions théologiques ont obscurci l'évangile de la vérité dans les Écritures. En fait, après le Concile de Nicée, l'évangile du transfert des péchés par le baptême de Jésus a disparu des doctrines. Par conséquent, nous devons aller au-delà des doctrines de l'homme et retourner à l'unique évangile du baptême de Jésus, de la croix et de la résurrection. Bien-aimés saints, la réforme de la foi ne consiste pas simplement à changer les institutions extérieures, mais à renouveler la foi du cœur avec l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous devons nous détourner de la doctrine de la repentance, de la doctrine des sacrements et des doctrines humaines, et nous attacher fermement seulement à la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit attestée dans les Écritures. C'est l'évangile du salut accompli lorsque Jésus a été baptisé et a porté nos péchés, a été crucifié, est mort et est ressuscité. Lorsque nous nous attachons fermement à cet évangile de l'eau et de l'esprit, la véritable assurance du salut sera établie en nous, et la bénédiction de Dieu viendra sur nous. Amen.